Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 22. Anthony dormit comme un bébé dans son lit surdimensionné. En se réveillant, il réalisa que cela faisait des semaines qu'il n'avait pas dormi de la sorte. Il en conclut qu'il était bien mieux adapté à la vie citadine et aux activités trépidantes qui allaient devenir son quotidien à partir d'aujourd'hui qu'au calme de la campagne et de son rythme lénifiant. Son avion décollait à 11h de Roissy. Cela lui laissait le temps de se préparer un copieux petit déjeuner avec ce que lui avait acheté l'âne. La jeune Asiatique était partie un peu effrayée la veille après l'incident exhibitionniste, même s'il s'était confondu en excuses et s'il n'avait donné à voir sa nudité qu'une fraction de seconde, le temps de ramasser la serviette. Il avait pris son numéro, puis elle était partie en courant. Il sourit intérieurement en repensant à cette scène incongrue et à ce qu'avait pu penser l'âne en le voyant débarquer à 2 minutes dans ce couloir. Il en parlerait à Audrey. Elle aurait pu le prévenir. Il commanda un taxi par téléphone qui passa le chercher à l'heure convenue devant sa porte. Une fois assis sur la banquette arrière, il sortit son téléphone pour vérifier que la batterie était pleine et s'aperçut que sa mère l'avait appelé plusieurs fois, la veille. Il décida de la rappeler aussitôt pour lui faire part de son départ pour Londres et la rassurer surtout. Comme un enfant surexcité par les événements, il décrivit son arrivée au magasin, l'appartement de fonction et le montant attendu de son premier salaire. Il lui parla d'Audrey, de Rémo et de l'âne, de leurs rôles respectifs dans ce qui était devenu sa vie en quelques heures seulement. Ses paroles le grisaient lui-même, il s'écoutait parler sans demander de nouvelles en retour. Lorsqu'il eut épuisé les superlatifs pour détailler sa salle de bain et sa chambre à coucher, sa mère put enfin lui dire la raison de ses appels de la veille. Elle avait parlé à Marion, l'avait trouvée charmante, mais très perturbée par son départ. Il fallait la rappeler absolument, il ne pouvait pas la laisser comme ça. Anthony accueillit la nouvelle froidement et ne fit aucun commentaire. Il acquiesça du bout des lèvres avant de mettre fin rapidement à la communication téléphonique. La contrariété envahit son esprit de manière inexorable, comme les nuages d'orage dans un ciel bleu d'été. Sa bonne humeur et son sourire du matin s'effacèrent au fil des kilomètres de bouchons avant l'aéroport. Il pensa soudain au pot de fleurs. Il l'avait posé sur son bureau, ne l'avait évidemment pas arrosé, et les volets de sa chambre étaient restés fermés. Il pesta contre cette contrainte que lui avait imposée Marion, regarda sa montre, il était trop tard pour faire demi-tour. Il téléphona alors à l'âne pour lui donner des instructions à ce sujet. La jeune femme en prit note, sans commentaire ni allusion à ce qui s'était passé la veille. Le vol pour Londres était à l'heure, et Anthony arriva à la maison mère de Smartphones quelques minutes avant le début de la réunion. Le magasin, tenu par Audrey, semblait déjà prêt à ouvrir, et le logo était du plus bel effet sur l'enseigne gigantesque qui surplombait l'entrée. Des appareils de toutes sortes étaient exposés à l'intérieur comme des bijoux sur des tapis de velours chic dans des vitrines étincelantes. L'œil d'Anthony fut attiré par un bracelet connecté dont il ignorait jusqu'à l'existence. À la fois montre, baladeur MP3, navigateur internet, téléphone, équipé d'un écran souple parfaitement invisible quand il était éteint, le bracelet de luxe orné d'or 18 carats, de cuir de serpent d'eau et de perles de Chine, affichait un prix en livres équivalent à 500 €. Audrey arriva dans son dos et le renseigna comme si c'était un client potentiel. « On n'a pas encore reçu les modèles les plus chers. Celui-ci est le bas de notre gamme. Tu as fait bon voyage ?»« Très bon, merci. Viens, je vais te présenter au reste de l'équipe. » Tous les responsables étaient ici et Anthony était indéniablement le plus jeune d'entre eux. Imperceptiblement, il se redressa, ajusta son costume et sa cravate et vérifia l'état de ses chaussures. Bien qu'entouré de personnes dont il partageait maintenant les objectifs, il était sur ses gardes. Clark arrivait tout droit de New York et ne parlait pas du tout le français. Anthony, qui n'avait pas entendu d'anglais depuis plusieurs mois, mit quelques minutes à le comprendre, car il parlait vite et avec un accent texan prononcé. Aoki était japonais, mais il parlait très bien notre langue. Il allait s'occuper de la boutique de Tokyo et semblait avoir des milliers de questions à poser à Audrey sur l'organisation des choses avant l'ouverture. Rémo, enfin, distribua ses cartes de visite à tout le monde, en s'étonnant ouvertement du fait qu'Anthony n'en est toujours pas à son nom. Audrey avait réservé une table dans l'un des meilleurs restaurants de Londres pour un déjeuner de travail. Ils s'y rendirent à pied, car ils n'étaient qu'à quelques centaines de mètres de la boutique centrale. L'ambiance était détendue, chacun plaisantant sur les coutumes des autres pays et faisant semblant de s'extasier devant tel ou tel monument de Londres qu'on apercevait depuis l'une ou l'autre rue. Anthony transpirait dans son costume et ne se sentait pas à l'aise dans ses chaussures. Mais cette équipe de jeunes entrepreneurs galvanisait ses pensées et il ne réfléchissait plus qu'en termes de parts de marché, de taux de pénétration et de chiffre d'affaires. À table, il réussit à s'installer en face d'Audrey. Rémo s'assit à côté d'elle, tandis que les deux autres hommes semblaient parfaitement insensibles à ses charmes. La table était recouverte d'une nappe épaisse amidonnée, et les couverts semblèrent peser plusieurs kilos quand Anthony les soupesa pour se donner une contenance. On leur apporta la carte qui ne faisait pas mention des prix de chaque plat. Anthony choisit presque au hasard un plat dont le nom en anglais ne lui évoquait rien de comestible. Les autres convives choisirent à leur tour en ayant l'air d'avoir déjà goûté à toute la carte et à plusieurs reprises. Lorsque le sommelier fut parti, Anthony étendit ses jambes et heurta sans faire exprès celles d'Audrey, qui les retira aussitôt sous sa chaise. Ils s'excusèrent mutuellement en souriant. Audrey expliqua en détail le rétro-planning qu'elle avait imaginé avant l'ouverture simultanée des magasins. Comme ils avaient pu le voir, les premières commandes étaient arrivées et si tout se passait comme prévu, l'ensemble du catalogue serait disponible le jour de l'ouverture. Les responsables de magasins avaient en charge la gestion du personnel et l'organisation générale de leur boutique et sa promotion locale, mais ils n'avaient pas le loisir de décider des prix de vente, hors marge de négociation prévue à l'origine, ni de communiquer au niveau national ou international sans passer par Londres. Une campagne de publicité mondiale était d'ores et déjà prévue dans les magazines de luxe et sur les salons de haute technologie à venir. Plusieurs serveuses apportèrent les plats de manière à ce que tous puissent commencer à manger en même temps. L'assiette d'Anthony était si grande qu'elle semblait presque vide. Des légumes parfaitement calibrés étaient savamment disposés en buisson autour d'un morceau de biche très tendre aux formes géométriques. Le tout était traversé par un trait de sauce, comme une flèche brune et brillante atteignant le gibier. Le jeune homme trempa sa fourchette dans le liquide figé pour la porter ensuite à sa langue. La sauce était bonne, mais sans personnalité. Les légumes n'avaient pas de goût, comparé à ceux qu'il avait mangés dans ce restaurant avec Jean-Jacques, et la viande fondante l'écœura rapidement. Il songea à ce repas préparé par Marion qui avait ébloui son palais et rempli son estomac. Les yeux dans le vide pendant plusieurs secondes, la voix de Rémo le fit revenir au moment présent. Il releva les yeux, Audrey l'observait. « Et toi, Anthony ? Oh, tu dors ? Je... Pardon, je rêvassais. Moi quoi ? Qu'est-ce que tu faisais avant ?» Sa mémoire auditive lui fit remonter les paroles échangées ces dernières minutes. Aoki venait de quitter une start-up qu'il avait lui-même lancée avec deux amis avec qui il ne s'entendait plus. Clark en avait assez d'être trader à Wall Street et voulait toucher enfin à la vie réelle. Rémo était jusqu'à cet été responsable du marketing dans une firme italienne de renommée nationale. « Moi, je cueillais des abricots, » répondit-il pour prendre Rémo par surprise. Ce dernier savait pertinemment qu'il sortait de l'école depuis leur conversation de la veille à Paris, et c'est ce qu'il voulait lui faire dire à nouveau devant les deux autres collègues pour qu'il admette son infériorité et son inexpérience. Rémo s'apprêtait à ironiser sur cette occupation peu commune, mais Audrey fronça les sourcils et embraya sur le plan d'agencement des boutiques. Les travaux commençaient le lendemain à Paris, Anthony devait superviser le chantier et s'assurer que tout était conforme au cahier des charges dont il recevrait la copie par courriel dans la journée. Audrey insista sur la nécessaire exigence de perfection quant à la mise en valeur des produits et somma ses collègues de ne pas oublier le niveau de la clientèle visée. Elle ajouta que les vendeurs devaient être tous conscients eux aussi de cet état de fait et être sélectionnés en tenant compte de ce critère. Le repas s'éternisa jusqu'à 15 heures. Anthony proposa de régler l'addition, mais Audrey l'informa du fait que Smartphones avait un compte dans ce restaurant et que ses frais professionnels étaient pris en charge. En jetant un œil à la facture par-dessus l'épaule d'Audrey, il vit que le total comportait 4 chiffres. Ils passèrent le reste de la journée à prendre connaissance du catalogue de produits et du positionnement de leur enseigne par rapport à ses concurrents directs, qui pouvaient être aussi bien les bijoutiers de luxe que les boutiques high-tech déjà bien établies. Anthony passa l'essentiel de la journée à observer Audrey et croiser accidentellement son regard. Elle souriait chaque fois d'un sourire neutre qui ne pouvait être interprété. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle ne le traitait pas de la même façon que les autres responsables, mais peut-être était-ce dû au fait qu'ils avaient fréquenté la même école ou parce qu'ils débutaient et qu'elle le ménageait davantage que les vieux briscards qui l'accompagnaient. Il regagna Paris dans la soirée, perdu dans des sentiments mélangés. En rentrant chez lui, il avait faim. Il trouva des tranches de jambon et du pain dans la cuisine où il mangea son sandwich seul en contemplant la porte du réfrigérateur, dans le silence et la solitude les plus complets. Il monta se coucher vers 23 heures. L'âne avait rangé sa chambre et mis en ordre le vase empli de terreau qu'elle avait arrosé, comme convenu par téléphone. Les volets ouverts ne laissaient plus passer à cette heure que les lumières oranges artificielles de l'éclairage public. Anthony observa longuement la surface de la terre qui affleurait le rebord du pot. Que cachait-elle ?